Aujourd'hui, pour introduire le sujet, nous avions effectivement organisé, il y a maintenant à peu près un an, dans le cadre de notre groupe de travail qui s'appelait à l'époque, c'était un groupe innovation en fait, dédié aux innovations technologiques. On avait organisé une série de quatre épisodes ou quatre sessions dédiées à la blockchain. Donc, je vous remettrai les enregistrements qui ont pu être faits à cette occasion. Il y avait eu notamment les interventions d'IBM, qui est un acteur assez important, qui a été très fréquemment sollicité pour préparer, pardon, des projets blockchain, mettre en place des projets blockchain. On avait eu aussi l'intervention de Orange, avec le responsable des portefeuilles projets blockchain du groupe Orange. Et puis, il y avait eu aussi des sessions faites sur les aspects notamment juridiques, sur les smart contracts, qui ne sont ni smart ni contracts. A priori, mais ça, Julien va nous en dire un peu plus. Et donc, voilà, vous allez pouvoir retrouver ces épisodes-là. Moi, je reviens juste en deux mots, et puis là, je peux enfin introduire correctement le sujet. En deux mots, alors, par rapport au café virtuel, au café, pardon, tech que l'on organise, donc c'est le troisième aujourd'hui. Les deux premiers épisodes, on a parlé des hypes, on avait fait la hype du Gartner, donc il y avait déjà eu les mots de tokenisation et blockchain qui ont été mentionnés à ce moment-là. Le deuxième épisode, on a parlé de la hype des intelligences artificielles avec Virginie Mativet. Là, on ne va pas forcément parler uniquement de la hype de la blockchain ou des tokens, mais je voulais quand même revenir sur quelques dates clés parce que ce qui est intéressant, c'est de regarder ces technologies-là, la manière dont elles sont, tout du moins comment elles se créent, leurs origines, et puis entre l'origine, sa conceptualisation et puis le moment où elles viennent sur le marché, c'est parfois quelques années. En l'occurrence, le concept donc de blockchain, de ce que les petites recherches ont amené à voir, date d'il y a maintenant 42 ans, c'était en 1982, porté par un monsieur qui s'appelle David Schaum. Julien, tu me corrigeras après. En 2008, donc il y a 16 ans, c'est un certain Satoshi Nakamoto, dont on a perdu la trace depuis, qui a conceptualisé et mis en place un protocole qui s'appelle Bitcoin. Depuis, il y a eu à peu près 12 000 crypto-monnaies, mais ça, tu vas nous en dire aussi un petit peu plus. 12 000 crypto-monnaies qui ont été mises sur le marché, si on peut dire ça comme ça. Et puis enfin, donc, dernière date aussi importante, c'est la SEC, donc c'est le commissaire de la bourse américaine, pardon, qui, après une dizaine d'années de négociations et puis un fort pressing, a priori, de certains acteurs, dont BlackRock, a accepté de mettre sur le marché américain les ETF et, entre autres, Bitcoin. Et puis, se profile une belle année, a priori, en l'occurrence, pour cette crypto-monnaie phare qu'est le Bitcoin, avec un quatrième halving. Tu vas nous expliquer tout ce qui se cache derrière ça. Et donc, je laisse la parole à celui qui sait. En l'occurrence, c'est Julien Sirten, qui est le fondateur de JSE Capital, qui est expert donc en crypto-monnaie. Et ensemble, on va revenir donc et sur quelques éléments de langage, repréciser les principes, les fondamentaux de ces protocoles de blockchain. Et puis, tu vas certainement aussi pouvoir nous dessiner et repréciser un peu le panorama, les tendances. Derrière les cryptos, enfin derrière, pardon, la blockchain, il n'y a pas que les cryptos. Donc, tu vas nous expliquer ça. Il y a aussi une tendance de fond. Donc là, avec une A priori, nous serions en pleine hype au moment où ça va vraiment décoller sur la tokenisation. Donc, Julien, je te laisse la parole et puis nous pourrons donc te poser quelques questions, soit en cours de route, dans le chat ou bien en fin de session. Merci beaucoup à toi.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Tout de suite, pour rebondir ce que tu dis, Pierre-Antoine, la SEC en fait a craqué entre guillemets, tout simplement parce qu'elle devait respecter la loi américaine. Voilà, c'est juste ça. Hein. La loi est assez appliquée. C'est juste qu'ils ont mis énormément de temps à vouloir la mettre en place. Maintenant, ça y est, ils ont respecté du coup la décision de justice. Eh ben, merci à tous pour votre présence aujourd'hui, votre participation à ce point. Donc je me présente rapidement. Donc je viens Sirten, hein, président fondateur de JSE Capital. Donc je suis consultant formateur sur la blockchain et aux actifs numériques. Alors pareil dans le discours, dans la mesure où en plus de ça, c'est enregistré et en étant soumis au régime du PSAN, je ne peux pas parler de crypto-monnaie dans mes explications. Moi, je parlerai d'actifs numériques. La finalité est la même, mais pour autant, je dois faire attention au discours que j'emploie. Je suis dans l'écosystème depuis 6 ans maintenant, en décembre 2017 pour ma première acquisition. Et d'un point de vue technique, moi je suis validateur sur la blockchain de Ternoa d'Avalanche. J'ai également d'autres blockchains sur lesquelles je travaille. Et j'ai un passif essentiellement de tech parce que je suis développeur de métier. Donc c'est ce qui a fait le pont avec la blockchain, c'est d'abord avant tout le côté technique. Je ne fais absolument pas de trading. Je ne fais pas de conseils en investissement financier. Moi, j'apporte véritablement de l'information sur la technicité blockchain et les projets, leur valeur ajoutée en fonction des secteurs d'activité des entreprises. Également, les projets dont je vais pouvoir parler aujourd'hui, ça c'est le petit disclaimer aussi que je suis obligé de faire, hein. Ce n'est pas des conseils en investissement financier. Je vais apporter des noms de protocoles, des noms de blockchain, des noms de projets. C'est juste à titre informatif, c'est en aucun cas un souhait de ma part que vous investissiez dessus. Si vous avez envie, c'est avec grand plaisir. Si vous n'y arrivez pas, je pourrais vous accompagner sur ça. Mais autrement, c'est juste à titre informatif. On part sur 4 petits modules rapides. Pour reprendre comme le discours de Pierre-Antoine, hein, on a d'abord le point de vue historique de ce que c'est qu'une blockchain. Elle a plus de 40 ans d'existence d'un point de vue purement mathématique et technique. Ensuite, on verra l'avènement du Bitcoin avec le premier cas d'usage. Ensuite, la blockchain d'Ethereum, qui est l'augmentation, on va dire, de la proposition de valeur de cette technologie. Parce qu'à un moment, Bitcoin atteint un plafond de verre et du coup, les smart contracts avec Ethereum permettent d'aller plus loin dans les cas d'usage. Et enfin, avant-dernier point, pardon, explication de ce que c'est le fameux Web3, donc le terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui et auquel on essaye de se raccrocher. Et enfin, dernier point, effectivement, un peu plus particulier sur la tokenisation du moment. C'est la mouvance du moment et son principe de fonctionnement. Donc, le principe d'une blockchain, historiquement, c'est de pouvoir réaliser une transaction de confiance entre deux personnes sans que celle-ci puisse être censurable, contrôlée par un organisme ou une autorité centrale. En plus de ça, l'Assemblée nationale, dans une commission de 2017, donne une définition complète de ce que c'est qu'une blockchain. Donc, l'État travaille dessus sur cette définition. Et elle parle, quoi qu'on en dise, hein, d'un registre distribué. Pour moi, c'est le bon terme, mais elle parle également de base de données pour simplifier le discours. Donc, je vais réutiliser ce même principe, hein, mais c'est une base de données qui est totalement décentralisée. Ce qui veut dire que l'ensemble des acteurs sur le réseau possèdent l'exactitude en même temps de la blockchain pour avoir ce principe de décentralisation et ce côté de résilience. C'est parce que moi, demain, ou Charlotte ou Pierre-Antoine, leur serveur tombe, que la base de données, que l'ensemble de la blockchain va s'arrêter. C'est pour ça que derrière, on aura un ensemble de nœuds de validation, de nœuds blockchain qui vont continuer à faire fonctionner le réseau. Donc c'est ce côté-là de résilience. Quand je parle de censure par un organisme, là on peut parler essentiellement des banques. J'ai rien contre l'industrie bancaire, hein, bien évidemment, si on a des amis banquiers aujourd'hui, mais dans l'idée, c'est ça, c'est qu'au moment de la transaction, elle ne puisse pas être. Elle puisse ne pas être empêchée, pardon, par une décision de la sorte et par une autorité centrale. Généralement, là, on pense plutôt à une position étatique. Donc, lorsque une transaction pareille ne puisse pas avoir lieu à cause d'un problème de frontière ou d'une position d'État, la blockchain, dans ses fondamentaux, permettrait d'éviter ce genre de principe et de censure. Petite animation rapide pour présenter le découpage d'une transaction dans la blockchain. Donc là, un cas d'usage assez simple, hein, où on a Joe qui souhaite réaliser une transaction pour envoyer des actifs numériques sur le portefeuille de Jane. Il va utiliser un logiciel, donc soit une application sur son téléphone mobile, soit un site internet, et il va avoir la première interaction homme-machine. Donc là, il vient saisir le montant qu'il souhaite transférer auprès de Jane. Et à ce moment-là, il n'est pas tout seul dans le monde à vouloir utiliser ce réseau, un peu comme aujourd'hui les plateformes bancaires. Donc du coup, il va avoir l'ensemble des transactions réalisées sur le réseau au niveau mondial qui vont petit à petit s'ajouter dans ce registre les unes à la suite des autres. Et en fonction de la technique des blockchains, hein, ces transactions constituent ce qui s'appelle un bloc. Et ce fameux bloc, c'est ce qui va être ajouté au fur et à mesure dans la blockchain, au fur et à mesure de son existence. Et donc ces blocs, pour qu'ils puissent être corrects et être ajoutés correctement au niveau de la blockchain, on a ce qui s'appelle un consensus pour que les acteurs qui participent à la décentralisation puissent être d'accord avec l'écriture qu'on va venir ajouter. Il n'y a pas de personnes physiques qui vont se mettre ensemble autour de la table et venir lire chacune des lignes, ou alors un expert comptable qui va venir lire les lignes du registre. C'est véritablement le code source du logiciel de la blockchain qui va réaliser ce travail-là. Et donc, c'est quoi? Ben, il y a aujourd'hui deux grands consensus qui existent. La preuve de travail avec les fameux mineurs qu'on entend généralement aujourd'hui, qui est utilisé par la blockchain de Bitcoin. Et ensuite, on aura ce qui s'appelle la preuve d'enjeu, qui est utilisée par la blockchain d'Ethereum aujourd'hui depuis 2022 et pour près de 90% des autres blockchains aujourd'hui. Donc, une fois que ces mineurs récupèrent l'ensemble de ces transactions dans le registre, ils ont un processus pour pouvoir venir résoudre un ensemble de petits calculs mathématiques. Et sur l'ensemble de ces mineurs, c'est le premier qui va réussir à résoudre l'ensemble de ces calculs pour aller générer ce qu'on appelle l'empreinte numérique du bloc, qu'on appelle un hash en informatique, H-A-S-H. Et à ce moment-là, ben, on est sûr que l'ensemble des transactions sont conformes au réseau et le bloc va pouvoir venir être rattaché au bloc précédent. Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on vient construire les maillons de cette blockchain. Au moment où, effectivement, on a le maillon qui vient de s'ajouter à la blockchain existante, Jane voit arriver sur elle le même logiciel ou la même application, la transaction que lui avait envoyé Joe. Et en parallèle de ça, donc ça spécifique au consensus de la preuve de travail, le fameux mineur va être rémunéré de par son action sur le réseau. Donc, à savoir que ce processus-là permet de sécuriser un réseau de manière totalement décentralisée, en n'ayant pas besoin de tiers de confiance. C'est véritablement le code qui va exécuter et authentifier le contenu des blocs pour pouvoir l'ajouter sur la blockchain existante. Il existe aujourd'hui deux types de blockchain. Ça, c'est important également pour les entreprises qui souhaitent développer sur cette technologie. Donc, on a dans 99% des cas, quand on en parle de manière publique, eh ben, on parle de blockchain publique, effectivement, hein, tout simplement. Donc, c'est que la blockchain est totalement présente en ligne. On dispose aujourd'hui de sites internet pour chaque blockchain, d'un site qui vient venir récupérer l'ensemble des transactions et des opérations réalisées sur le réseau. Et ça, depuis la genèse du réseau. Donc Bitcoin, hein, c'est première transaction 2008-2009. Et ben à ce moment-là, on est capable d'aller récupérer la totalité des transactions depuis 2009. Et ça, de manière encore une fois, totalement décentralisée et sécurisée. Et de manière également immuable. Il faut savoir que dans la blockchain, lorsqu'on vient écrire du contenu, on ne peut pas venir le modifier. Donc là, tout ce qui s'est passé depuis 16 ans sur la blockchain de Bitcoin, rien n'a pu être modifié depuis cette période-là. Si j'envoie 0,1 Bitcoin à Pierre-Antoine alors que je voulais lui envoyer 10 centimes de dollars, tant pis, c'est de ma faute. S'il est sympa, il me rend l'inverse. Mais autrement, je ne peux pas appeler Monsieur Bitcoin en lui disant « Excusez-moi, je me suis trompé dans le montant, est-ce que vous pouvez me faire la modification ?» Ce n'est pas possible. Également, les blockchains publiques, personne ne la possède. Au sens, c'est pas moi qui possède la blockchain sur mon serveur, sur mon ordinateur à ma maison. Et si jamais je veux l'arrêter d'un seul coup, bah, j'appuie sur le bouton on-off et ça s'arrête. Dans la mesure où elle est publique et elle est décentralisée, tout le monde peut la posséder. N'importe qui peut stocker également sur la blockchain. C'est aussi à avoir à l'esprit, hein. Faut pas être développeur ou faut pas être spécialement informaticien. Il y a des logiciels qui existent aujourd'hui pour pouvoir venir écrire très simplement une transaction dans la blockchain. Ça vous est totalement transparent en tant qu'utilisateur, mais sachez que vous pouvez l'utiliser de cette manière-là. Et les acteurs sont inconnus. Alors là, il y a deux notions d'acteurs. Il y a la notion d'acteurs, on va dire, ceux qui viennent réaliser les transactions, vous comme moi. À ce moment-là, on va pas parler d'anonymat, mais on parlera plutôt du terme du pseudonymat. Sur la blockchain, vous n'êtes pas totalement anonyme, vous êtes pseudonyme. Dès lors que vous avez une adresse qui a réalisé une transaction, c'est à ce moment-là que la notion de pseudonymat intervient. Ensuite, sur les blockchains privées, donc c'est une entité qui possède la blockchain. Généralement, les blockchains privées sont à aujourd'hui majoritairement utilisées dans l'industrie bancaire. On a SG Forge que je citerai un peu plus tard, donc c'est la filiale fintech de Société Générale. On va avoir également des entreprises comme la BNP qui développe également dessus. La Banque de France également, j'ai pu assister à une présentation de leur stack technique à VivaTech l'année dernière où ils faisaient une présentation de l'utilisation de la blockchain privée la plus utilisée aujourd'hui qui est Hyperledger. Et donc, le principe de fonctionnement, c'est que ces fameuses blockchains sont stockées sur des serveurs internes. Là, pour le coup, il y a bien évidemment des réplications sur des serveurs dans une idée, bien évidemment, de sauvegarde de la donnée, mais ce n'est pas ouvert au public. C'est les entités gérées par SG Forge ou la BNP qui va venir gérer ces serveurs. Les acteurs sont connus, je viens de citer les noms, et en plus de ça, en amont, effectivement, il y a un besoin d'authentification pour pouvoir réaliser la transaction dans ces blockchains afin de savoir qui fait quoi au-delà simplement de l'adresse. Et donc, fort de cette présentation-là sur le principe de blockchain et de registre et de blocs et de techniques, j'ai mis une petite animation qui permet de se représenter un peu visuellement le principe d'un bloc dans la blockchain. Donc, on a systématiquement un en-tête qui va permettre de définir un eurodatage généralement, et notamment aussi sur la blockchain de Bitcoin, qui va permettre de mettre directement en en-tête le solde de l'ensemble des transactions réalisées dans ce bloc. On a ensuite ce qui s'appelle le hash du bloc précédent. Donc, c'est cette fameuse empreinte numérique qui permet le côté immuable dans la blockchain, qui vient être mis dans ce bloc. Ensuite, on a l'ensemble des transactions qui ont été réalisées dans un temps donné. Ensuite, on a en bas de ce bloc, on a la preuve de travail. Donc là, c'est l'information concernant le mineur, quel est son identifiant, quel bloc il a miné, etc. Et ensuite, on aura en dessous l'empreinte numérique du dit bloc qui vient juste d'être miné. Et ensuite, on va venir répliquer cette empreinte numérique à chaque fois juste en dessous de l'en-tête des blocs suivants. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir lier l'ensemble des blocs, l'ensemble des pages de ce fameux registre et permettre de le rendre inaltérable et immuable. Alors, bien évidemment, il y a des procédés techniques, informatiques pour arriver à tout ça. Il y a le principe de cryptographie qui arrive, le principe de la cryptographie avec un algorithme en SHA-256 pour la blockchain de Bitcoin, etc. Donc là, c'est des sujets techniques qui peuvent être abordés dans un second temps. Mais très simplement, pour imager le fonctionnement, voilà comment ça se représente. Et donc, pour revenir aussi à un petit exemple sur ce que je disais juste avant, avec cette notion de blockchain publique où tout est visible, dans cette notion de transparence des transactions. Donc là, je prends un exemple de l'explorateur de la blockchain de Bitcoin. Et donc, la transaction ID, c'est ce fameux hash qui a été généré de manière aléatoire et unique. Et donc, en fait, demain, pour récupérer une transaction, au lieu d'aller chercher avec votre IBAN et un horaire quand vous êtes dans une transaction bancaire traditionnelle, et là, vous irez chercher avec votre adresse de votre portefeuille plus le hash de la transaction afin de le retrouver dans ce fameux explorer public. Il faut savoir également, quand je parlais de cette notion de pseudonymat, qu'aujourd'hui, les plateformes centralisées qui vous permettent d'acheter des actifs numériques pour démarrer et vous mettre le pied à l'étrier ont des obligations de réglementation auprès des États. Notamment les plateformes style Binance, Crypto.com, Bitpanda et Kraken pour les US sont des plateformes qui vont vous demander une preuve d'identité, un selfie avec votre tête qui va bouger, en fonction même du capital que vous allez pouvoir utiliser, une preuve de domiciliation, etc. etc. Donc dans tous les cas, quand vous allez sortir sur la blockchain vos transactions, ça sera l'adresse de votre portefeuille de cette plateforme centralisée. Mais demain, s'il y a des suspicions de malversation, de fraude, etc., sachez que les parquets sont autorisés à demander à ces plateformes centralisées à récupérer l'identité de la personne derrière cette adresse. Donc c'est pour ça que c'est un aussi des grands poncifs qu'on peut avoir hein, sur la notion de blanchiment d'argent ou etc. Effectivement, il y en a, on va pas se le cacher, comme dans l'économie traditionnelle. Par contre, les volumes sont bien moindres et c'est surtout que ben, derrière, il y a une possibilité de traçabilité qui est augmentée sur ces transactions. On passe outre, bien évidemment, tout ce qui est vraiment dark avec ces notions de mixeurs, etc. Enfin bref, on va pas rentrer dans la technique. Mais de manière plus traditionnelle, la traçabilité des fonds est quand même plus aisée que dans le monde de la finance traditionnelle. Et donc, petite animation pour opposer une base de données traditionnelle à la blockchain. Donc, la base de données est centralisée, elle est stockée à un seul et même endroit. Bien évidemment, je ne vais pas vous apprendre hein, dans la tech hein, qu'il faut avoir des backups et des copies, bien évidemment. Mais pour autant, on voit ce qui a pu se passer chez OVH à l'époque à Strasbourg lorsque le data center a brûlé. Certaines entités n'avaient pas ce processus, cette démarche. Ils ont perdu la totalité de leur portefeuille client, de leur comptabilité, etc. Avec une solution blockchain, de la manière où c'est décentralisé, la donnée est répartie sur un ensemble d'acteurs. La base de données est gérée par un tiers de confiance. Bah effectivement, hein, aujourd'hui, ne serait-ce que la data qui peut, que la DIRA peut centraliser, vos informations de l'entreprise, de votre cotisation, etc. Et ben c'est la DIRA, le tiers de confiance, qui le gère. Au niveau d'une blockchain, ça serait ben, potentiellement le développement d'un smart contract. Et on viendrait vérifier que Aurélie, que Charlotte, que Xavier, etc., sont bien à jour de leur cotisation, en ont vérifié dans la blockchain cette information. Et donc bon, je fais un peu le coquin en mettant Monsieur Burns qui maîtrise, qui a une vue d'ensemble sur la base de données, et en face de ça les Avengers sur la partie blockchain. Premier cas d'usage, Bitcoin. Alors là, on avance un peu dans le temps. On est en 2009, janvier 2009 pour être précis. Et on sort de la crise des subprimes, véritable besoin d'indépendance financière, de ne plus reproduire ce qui s'est passé avec les Lehman Brothers et dans certains États. Et donc arrive effectivement Satoshi Nakamoto, comme l'a présenté Pierre-Antoine. On ne sait pas qui c'est. Soit c'est une seule personne, soit c'est une équipe de cryptographes américains. Parce que le début de Bitcoin a démarré sur un forum entre 2008 et 2009 où il y avait une dizaine de cryptographes référencés dans l'écosystème cryptographique pour le coup. Et ils ont commencé à réfléchir sur une solution et Bitcoin est la source de cette réflexion. Encore une fois, on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto. Le consensus, donc de quelle manière on va se mettre d'accord sur la validation et le minage du bloc, c'est la preuve de travail. Donc cette preuve de travail, effectivement, c'est à aujourd'hui le consensus qui est le plus décentralisé et le plus robuste. Pourquoi? Parce que pour pouvoir venir altérer la blockchain de Bitcoin, qui fonctionne sans interruption depuis 16 ans maintenant, je le rappelle aussi, il faudrait détenir 51% de la puissance de calcul de l'ensemble des fermes de minage présentes dans le monde. Pour venir ne serait-ce qu'écrire un seul bloc. Mais il faut également, si on veut venir modifier le passé, et ben du coup, il faut venir réécrire l'ensemble des blocs qui ont existé pour venir écrire, je sais pas moi, je voudrais bien qu'en 2013 mon portefeuille possède 1000 bitcoins. Et ben je vais devoir réécrire l'ensemble des transactions entre 2013 et le prochain bloc pour pouvoir avoir un état correct là en 2024. Donc autant dire que la puissance en ressources techniques et d'un point de vue financier est très lourd. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est le consensus le plus robuste dans les transactions. Je dis pas que c'est le plus optimisé dans sa genèse, hein, dans la mesure où on ne peut réaliser que 7 transactions à la seconde. On est loin des 99 000 transactions secondes du réseau bancaire traditionnel. Ça, la conscience de l'écosystème, elle est claire à ce niveau-là. Parce que le sous-jacent n'est pas d'être dans la microtransaction au niveau de Bitcoin. C'est juste d'apporter une résilience, une sécurité, une décentralisation. Donc, on pourra plutôt émettre des gros virements, si je peux appeler ça comme ça. On pourrait réaliser de grosses transactions avec des gros montants parce que ça coûte très peu de frais, ou alors stocker de l'information sur le côté immuable. Par contre, effectivement, ça peut être difficile d'entendre qu'on va devenir demain payer notre baguette de pain de par ce rythme-là. Il existe bien évidemment des évolutions logicielles qui sont en cours hein, depuis 2015-2016, qui demandent un peu plus de technique, donc c'est pour ça que c'est encore en cours de développement. Parce qu'encore une fois, si on prend un peu de recul par rapport à l'économie traditionnelle, hein, qui a plus de 60 ans d'activité et d'optimisation de systèmes d'information, là on parle d'une technique blockchain d'actifs numériques qui a à peine 16 ans. Donc on est encore dans des phases de développement et des phases d'adaptation pour optimiser ce principe de fonctionnement. Un nombre que j'aime bien afficher également et qui montre également l'importance de cet actif numérique qui est Bitcoin, c'est le chiffre de 21 millions. Donc ça, vous verrez généralement hein, lorsqu'on parle de Bitcoin, c'est le nombre fini, c'est le nombre total de Bitcoin qui sera émis sur son réseau, la blockchain Bitcoin, d'ici l'année 2136. Je ne suis pas certain qu'on le verra, qu'on connaîtra cette époque. Mais pour autant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce nombre-là est fini. En plus de ça, on vient gérer l'émission et la création de Bitcoin. Pourquoi 21 millions en 2136? Parce qu'effectivement, tous les 4 ans, il y a une opération qui va être réalisée sur le réseau qui s'appelle le halving. Qui consiste en quoi? Si on revient sur le petit schéma que je vous ai présenté en introduction, la récompense au mineur, eh ben c'est l'émission de Bitcoin à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, pour maintenant, si un mineur mine un bloc, il va gagner 6,25 Bitcoin. D'ici fin mars, début avril, parce qu'on arrive au halving sur l'année 2024, on va diviser par deux la quantité de Bitcoin émis sur le réseau. Donc on va passer à 3,125 Bitcoin. 125 bitcoins, pardon. Et ainsi de suite, en fait, tous les 4 ans, on va diviser par deux l'émission de bitcoin. C'est un peu comme si aujourd'hui, on venait maîtriser la création monétaire de notre euro. C'est comme si on était capable de venir gérer, de diviser par deux, à intervalles réguliers, l'émission de la monnaie. Ce principe de fonctionnement-là, aligné dans le temps, permet de gérer un taux d'inflation de 1,8% sur cet actif numérique. Donc intrinsèquement, il y a 1,8% en moyenne d'inflation, mais derrière, l'objectif, c'est de le rendre, c'est que mécaniquement, il se raréfie dans le temps. Et il y a des entreprises aujourd'hui qui ont bien compris ça. Hein. J'ai cité la MicroStrategy, qui possède plus de 140 000 bitcoins sur son portefeuille, qui aujourd'hui, je pense, souhaite se positionner comme une banque de bitcoin pour les prochaines années. Dans la mesure où ça va se raréfier au niveau de la création monétaire, on en aura toujours besoin pour pouvoir réaliser des transactions, et ils seront présents pour pouvoir vous les donner ou les distribuer et les revendre. Quelques idées reçues qu'on entend sur les médias mainstream également. Donc on a cette notion de gourmand en énergie. Effectivement, c'est une réalité. Ça consomme de l'énergie, autant que celle qu'on est en train de consommer là pour pouvoir faire de la diffusion audio et vidéo, autant que les transactions des virements bancaires que vous réalisez. Il faut savoir que l'utilité première de cette consommation d'énergie, il est véritablement de sécuriser ce réseau. C'est véritablement dans le besoin de répondre à la résilience du réseau. Il y a une superbe étude de Michel Kazaka, qui est le CEO de Value Chain, qui permet véritablement de bien comprendre l'opposition entre le minage du Bitcoin à travers le monde et les opérations de transactions bancaires traditionnelles. Et il présente un peu quelques stats, hein, comme quoi effectivement le minage du Bitcoin c'est entre 80 et 114 TWh par an. On est bien évidemment bien au-dessus sur la partie finance traditionnelle. Par contre, on n'est pas encore sur les mêmes volumes d'argent qui transitent. Ça, on est bien conscient de ça. Donc il ne faut pas oublier non plus, malgré tout, que dans ces usages, l'énergie qui est utilisée, elle, c'est l'électricité qui est vraiment optimisée pour ces fermes de minage. Elles sont installées des endroits stratégiques. On va s'installer en Islande, profiter du froid et de la géothermie. On va s'installer, historiquement, on en a eu beaucoup en Asie, à la sortie de barrages hydrauliques. Là, on a la plus grande ferme depuis lundi, là, la news est sortie, de minage qui va être installée au Texas à la sortie d'excédents de pétrole non utilisés. Ça va être la plus grande ferme qui va pouvoir être mise en place au monde. Donc, effectivement, bien conscience de cette notion-là, mais par contre, il faut toujours savoir pourquoi on utilise de l'énergie et surtout quel type d'énergie est utilisée majoritairement dans cet écosystème. Enfin, la notion de blanchiment d'argent, donc là, c'est ce que je citais un peu précédemment, hein. Dans la mesure où la blockchain est totalement publique, on est capable d'avoir le nombre précis de transactions pour le nombre total du montant qui a été géré. Donc, on estime à peu près à 8,6 milliards de dollars en 2021, Bitcoin et autres actifs numériques qui auraient pu être utilisés pour du blanchiment d'argent. Dans la même année, selon une étude de l'OCDE, on serait plutôt aux alentours de 2 000 milliards de dollars en finances traditionnelles, orientées blanchiment d'argent, financement de terrorisme, etc. Encore une fois, hein, faut prendre un peu de recul sur la totalité des transactions de la capitalisation, mais pour autant, ceux qui aujourd'hui réalisent encore des transactions pour du blanchiment d'argent sur la blockchain, à un moment donné, c'est une certitude qu'ils vont se faire attraper par la patrouille, dans la mesure où les transactions sont transparentes et visibles. On avance dans le temps. Donc là, Bitcoin a bien fonctionné et fonctionne encore très bien, mais pour autant, avec cette problématique de ces 7 transactions secondes, on arrive un peu à une proposition de valeur qui s'arrête. Et donc, c'est pour ça qu'en 2015, on aura Ethereum, qui est notre blockchain, qui va être présente et actualisée dans l'écosystème avec cette proposition de valeur qui sont les smart contracts. Donc, j'ai expliqué rapidement ce que c'est qu'un smart contract et je ferai aussi un petit point de régulation parce que la partie compliance est également importante dans cet écosystème parce que ça existe, hein. Ce n'est pas le Far West, on a véritablement de la régulation en France et en Europe. Donc, qu'est-ce qu'un smart contract? Eh ben, c'est un programme, effectivement, ce n'est pas un contrat, comme le disait Pierre-Antoine, qui est stocké dans une transaction de la blockchain, qui va s'exécuter lorsque certaines conditions sont remplies ou lorsque certains événements se produisent. Au niveau de l'exécution, les conditions, on fera appel à ce qui peut être un oracle. Je ferai rapidement une petite explication et un exemple juste après. Et lorsque certains événements se produisent, bah là c'est très simple, hein, c'est lors du clic avec votre souris sur un site internet, vous avez déclenché une action, vous faites appel à ce code et à ce moment-là, vous avez une interaction avec ce smart contract. Donc l'origine d'Ethereum, on est en 2015, c'est une fondation qui est maintenant basée à Zoug en Suisse, qui a levé à l'origine en 2014 plus de 30 000 bitcoins. Donc, assez rigolo parce qu'à l'époque, la levée de fonds se faisait en bitcoin dans la mesure où ils n'étaient pas encore live. Donc du coup, cette fondation a levé énormément pour pouvoir déployer son réseau. Les créateurs historiques, donc on parle de Vitalik Buterin, c'est toujours celui qui est véritablement l'égérie entre guillemets de la fondation à date. On a Mihai Halivi, Anthony Di Lorio et enfin Charles Hoskinson. Charles Hoskinson, on le retrouve encore aujourd'hui dans l'écosystème sur la blockchain Cardano. Parce que pareil, hein, après la levée de fonds en 2015, petite friture sur la ligne. Et donc du coup, il a décidé de créer sa propre blockchain qui est le Cardano aujourd'hui. Et donc Ethereum a le consensus de la preuve d'enjeu depuis peu, hein, depuis décembre 2022, parce qu'historiquement, ils étaient également sur le même consensus du minage, et ils ont décidé de basculer, ben, la fondation a décidé de basculer sur ce nouveau consensus. Et donc le fonctionnement d'un smart contract, très simple, donc là je prends l'exemple d'un smart contract qui avait été établi par AXA Assurance dans la souscription d'une assurance retard de vol. Donc en fait, ben, la personne vient fournir un certain nombre d'informations dans le smart contract, l'heure de vol, le numéro de vol, les passagers, le montant, je crois, le numéro de la police d'assurance, etc., etc. Tout ça est compilé dans le smart contract, et il est déployé sur la blockchain d'Ethereum. Admettons que le vol était que dans 6 mois, et ben pendant 6 mois, le smart contract va être présent dans la blockchain et il va attendre le moment, l'heure H, pour pouvoir se déclencher. Arrive le jour J leur hash. Et là, il va s'enclencher sur le réseau et il va aller venir consulter à intervalles réguliers les oracles pour savoir si le vol numéro 1224 à destination de Buenos Aires a bien 2 heures de retard ou pas. Si les oracles répondent non tous en même temps, ben le smart contract n'exécute aucune opération qui lui a été, qui a été développée au sein de celui-ci. Par contre, dès lors où les oracles répondent à la de manière positive, le smart contract va exécuter le code qui a été développé à l'intérieur de celui-ci et il va réaliser une transaction auprès du souscripteur qui va du coup le dédommager de cette opération, de ce retard. La notion d'oracle, il faut savoir que c'est des plateformes qui sont extérieures à la blockchain, donc là on vient recentraliser l'information, mais ils viennent répondre à du code qui est sur la blockchain. Donc ce pont-là est hyper intéressant. On a aussi des oracles décentralisés. L'un des plus importants aujourd'hui s'appelle Chainlink, qui est capable de fournir plus de 20 sources différentes d'informations pour pouvoir répondre à ce cas d'usage. Donc effectivement, ce n'est ni un contrat au sens souscription signature traditionnelle, ni intelligent au sens intelligence artificielle. Il ne va pas exécuter du code par magie. Il exécute ce qu'on lui a demandé de réaliser. C'est du conditionnel dans le code. C'est un développeur qui l'a développé à l'origine. Et donc, si on peut du coup aujourd'hui parler d'Ethereum et de Bitcoin, ils offrent véritablement deux propositions de valeur aussi exaltantes que différentes l'une de l'autre. Ce sont deux projets innovants avec deux architectures totalement différentes. Et ces deux blockchains, effectivement, ne couvrent pas tous les marchés ou tous les sujets aujourd'hui, mais elles n'ont pas vocation à entrer ou être mises en concurrence. Dans l'écosystème blockchain, on parle véritablement de Bitcoin et tous les autres. Il n'y a pas de comparaison possible et il n'y a pas non plus de challenge à envisager à ce niveau-là. On parle effectivement de Bitcoin comme étant l'étalon or des actifs numériques, la réserve de valeur, même s'il y a des sous-jacents techniques bien plus intéressants à utiliser. Et ensuite, on a l'ensemble du reste de l'écosystème blockchain. Au niveau de la régulation, c'est quelque chose moi qui m'est très, très important. Je suis pour une régulation lorsque celle-ci, bien évidemment, est suffisamment intelligente et que les acteurs ont été consultés en amont. C'est pour ça que je citerai aujourd'hui l'association de l'ADAN, l'Association au développement des actifs numériques, dont je suis membre, qui depuis près de 4 ans travaille auprès des législateurs français et européens pour la mise en place de conformité et de règles bien spécifiques. Notamment aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir un statut de prestataire de services d'actifs numériques. Donc, c'est un enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers pour 4 des 5 catégories. Moi, mon activité de conseil, je fais partie de la 5e catégorie. Donc, je n'ai pas une obligation d'enregistrement pour exercer mon métier. Par contre, je dois respecter les règles définies par l'AMF, d'où le petit disclaimer à l'entrée. Donc aujourd'hui, on a un peu moins de 100 entreprises enregistrées en tant que PSAN. Il y a des belles entités qui sont PSAN à Lyon, notamment. On a le principe d'agrément. Donc là, c'est le niveau d'au-dessus. C'est un enregistrement qui est encore plus important, notamment en besoin de cybersécurité, de systèmes d'information. Et aujourd'hui, il n'y a que la filiale tech de SG, de Société Générale, qui possède un SG Forge depuis fin 2023. C'est la seule entité en France à posséder l'agrément. Et donc, il y a des obligations et des réglementations pour le prestataire envers ses clients. Et enfin, donc, on évolue vers une loi européenne qui s'appelle MiCA, Market in Crypto Assets. Et donc, cette réglementation va rentrer en vigueur à partir de juin 2024. À ce moment-là, la représentation du PSAN français, avec quelques ajustements pour mettre d'accord tous nos amis européens. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acteur en France ne peut pas aller démarcher le Luxembourg, le Portugal ou la Lituanie. Avec MiCA, ça va être possible. Aujourd'hui, un acteur enregistré en France, avec l'enregistrement MiCA, pourra proposer ses services au Luxembourg, au Portugal, en Espagne et en Lituanie, sans avoir un besoin de mise à jour ou de visa pour pouvoir opérer sur le territoire. Inversement, des entités portugaises, lituaniennes pourront venir proposer des services en France. Donc là aussi, ça va pouvoir venir challenger certaines structures qui pensaient être établies et du coup, ça va amener un petit peu de nouveauté et de challenge à toutes celles-ci. Donc, il y a des demandes de besoins et de régulations qui sont encore plus importants. Il y a trois catégories qui les distinguent. On sait encore, il y a encore pas mal d'éléments complémentaires à aller chercher à ce sujet. Dernier module, donc présentation du Web3 et le principe de tokenisation. Définition de ce que c'est le Web3.0 ou le Web3 comme on le dit aujourd'hui, hein. C'est le principe de la propriété à l'utilisateur pour la création de contenu. C'est un ensemble de technologies. Dans le Web3, on ne va pas parler que de blockchain. On va venir ajouter ça avec de l'IA et bien évidemment le machine learning, l'apprentissage machine. Et les utilisateurs seront interconnectés sur plusieurs plateformes et plusieurs appareils. Là, on peut directement déjà un peu penser au principe de métaverse si on est intéressé par ce principe de fonctionnement. Pour moi, c'est une vraie philosophie. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans le principe de métaverse. Chacun s'y retrouve s'il veut. Mais c'est on va dire, c'est un cas à part. L'émergence du Web3, donc pareil, encore un peu d'historique, hein, toujours bien de savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. 1990, Web 1.0, donc ARPANET, l'Internet militaire s'arrête en 1989. 90, on arrive à la proposition de valeur de l'information digitale, où on est essentiellement sur le principe de lecture. On est sur des pages statiques. Et l'une des grandes sociétés phares à l'époque est Netscape. Donc là, effectivement, amener de la ressource à ce niveau-là, on est un peu véritablement, alors j'en suis un, mais on est vraiment dans le terme des geeks qui sont capables de pouvoir faire des premières pages en HTML, de pouvoir déployer un serveur sur le fameux 3W World Wide Web, etc., etc. On avance dans le temps, comme à chaque fois, hein, la démocratisation. Parlant de démocratisation, on est à aujourd'hui au nombre d'utilisateurs de la blockchain. Si on compare la courbe à l'utilisation d'Internet, qui est très très similaire, à 1998 au niveau de l'usage de l'Internet. Je vous laisse un peu imaginer le potentiel de demain. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais il y a suffisamment de recul maintenant pour pouvoir se faire une petite idée. 2005, on peut définir le Web 2.0. Donc là, on bascule dans du commerce digital. Explosion des plateformes de vente en ligne, explosion des réseaux sociaux, des premiers forums. Pour ceux qui ont connu les Skyblogs, hein, moi, c'est ma génération. Donc là, on est véritablement dans le principe de réseaux sociaux, de sites web à part entière. Et les acteurs qui sont encore présents aujourd'hui sont les fameux GAFAM. On continue d'évoluer dans le temps, les GAFAM prennent de plus en plus de place, les gens prennent de plus en plus peur aussi sur leurs données, ils souhaitent retrouver de la propriété sur la data, et donc c'est là où on vient parler du Web 3.0. On est maintenant, on bascule dans le principe de posséder l'information. Donc là, amène le réseau Bitcoin, les actifs numériques au sens large, et des sociétés comme Binance pour l'acquisition d'actifs, et des plateformes comme OpenSea, qui est la plus grande bourse d'échange de NFT au monde, qui vous permet de pouvoir justement matérialiser cette propriété sous forme de NFT, par exemple. À savoir que la notion de Web 2 est toujours bien présente aujourd'hui, elle n'a pas disparu. C'est juste une évolution qu'on peut, et beaucoup de projets sont mixtes. On peut avoir une expérience qu'on appelle Web 2 avec une couche de Web 3 si on a de l'IA ou si on amène de la blockchain. Ce n'est pas incompatible, bien au contraire. Donc la petite animation hein, rapide hein, pour montrer un peu le potentiel. Hein. Donc sur le Web 2, on est bien centralisé sur des bases de données avec les principaux acteurs, alors que dans le Web 3, on va avoir un ensemble d'actifs, un ensemble de projets en proposition de valeur de manière encore une fois décentralisée. Et pour terminer, sur l'actualité également, hein, le principe de tokenisation. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à représenter la propriété d'une valeur mobilière ou immobilière et les droits qui lui sont attachés, bien évidemment, en un token numérique, donc en un actif numérique, pour qu'il puisse être utilisable sur une application de la blockchain. Donc là, en fait, on vient véritablement prendre un actif du monde réel pour que celui-ci puisse être matérialisé sous forme de token, pour qu'ensuite il puisse être plus facilement accessible et échangeable en toute transparence avec un fort niveau de sécurité et sans contrainte de temps ni géographique. On prend l'exemple hein, essentiellement de l'immobilier aujourd'hui, où c'est la majorité des actions. On va pouvoir tokeniser un immeuble. Donc là, l'une des premières entreprises est américaine à avoir fait ça. Hein. Ils achetaient des immeubles style HLM aux US. On pouvait acheter une part de cet immeuble à partir de $50 et on récupère tous les lundis un pourcentage des loyers qui sont perçus par cet immeuble. Donc en fait, pour 50 dollars, on vient posséder une part d'un immeuble. On me dira, bah en fait, c'est le même principe que la SCPI potentiellement aujourd'hui dans la finance tradie. L'intérêt ici, c'est déjà le ticket d'entrée qui est défini par le projet qui peut être relativement bas, hein, 50 dollars, 20 dollars, c'est au projet qui souhaite le décider. Mais surtout, il faut avoir cette notion de liquidité. Ça va être liquide sur le marché. Aujourd'hui, une SCPI, si on a de la chance et vu l'état du marché, on peut mettre entre 10 et 12 mois pour vendre sa part. Sur le principe de la blockchain, dans la mesure où on n'a pas de contraintes de temps ni de contraintes géographiques, moi demain, ma part de mon token, je peux le mettre en vente sur une plateforme décentralisée et il peut être acheté par un Péruvien, un Singapourien ou un Canadien. Je ne sais pas, moi, derrière, qui va l'acheter. Encore une fois, c'est juste l'adresse, le pseudonymat, mais pour autant, la liquidité sera amenée. Et donc, on parle effectivement aujourd'hui des RWA pour Real World Asset ou actifs du monde réel. Donc, c'est le pouvoir de numériser de la private equity, de l'art, de l'immobilier, des contrats d'assurance, des parts de fonds et des produits structurés si on parle de finances traditionnelles. Techniquement, à quoi ça correspond? Eh bien, on vient écrire dans la blockchain, publique ou privée, bien évidemment, on peut faire ça aussi sur une blockchain privée, un titre financier qui aura été numérisé dans la blockchain, qui est l'actif numérique. Ça va être ensuite l'exécution sur ces opérations sur ce token, l'émission, la vente au second marché, cette notion de liquidité, l'utilisation de ces applications de finances décentralisées ou de finances centralisées. Tout ça est possible, encore une fois, grâce à l'avènement des smart contracts que j'ai expliqué en amont et à la démocratisation du Web3. Et donc, ces smart contracts vont pouvoir automatiser les clauses contractuelles qui ont été développées en leur sein en fonction des conditions qui vont leur être données et des actifs qu'on souhaite titriser dans la blockchain. Et donc, quelques exemples hein, pour être plus parlant et pour coller à l'actualité. Effectivement, comme le disait Pierre-Antoine en introduction, hein, les fameux ETF pour les Exchange Traded Funds de Bitcoin, donc, qui ont été autorisés aux USA le 11 janvier 2024 et qui ont drainé à aujourd'hui près de 8 milliards de dollars de capitalisation. Donc là, on est dans un mouvement haussier du marché. Effectivement, on a dépassé les 51 000 dollars sur le Bitcoin et on voit véritablement que en près de 3 semaines, il y a, alors je disais 8 quand j'ai fait la slide, hein, mais on est quasiment arrivé à 12 milliards de dollars aujourd'hui au niveau des transactions de par ces fameux ETF. Donc, on peut citer BlackRock, hein, effectivement, en tête de proue, hein, l'un des plus gros. On a aussi 21 Shares, qui historiquement, depuis 2019, propose d'acheter du Bitcoin, mais sous forme d'un ETP en Europe. Mais là, ils ont officiellement leur propre ETF aux US. Et après, il y aura donc plein d'autres, hein, effectivement, qui sont effectivement aussi dans l'écosystème. Là, la prochaine idée, BlackRock se positionne déjà pour sortir son ETF sur Ethereum. Donc là aussi, on voit Ethereum qui pousse fort, hein, au niveau de sa capitalisation et sa valeur sur le réseau. C'est parce qu'il y a déjà des gens qui essayent de se positionner au moment de cette annonce et du besoin. Pourquoi? Parce que la jurisprudence va donner raison, hein, à toutes ces plateformes. On a accepté Bitcoin. Pourquoi on va pas accepter, on n'accepterait pas les autres, pardon. Quelques exemples, ben je prenais l'exemple, hein, de la tokenisation immobilière, hein, qui permet de percevoir les loyers d'un logement en détenant une partie de celui-ci. Donc là, une entreprise lyonnaise qui propose ça, qui s'appelle Atoa, qui permet effectivement de tokeniser un bien immobilier. Là, ils sont dans leur deuxième phase de levée de leur projet qui est basé à Niort. On a également des bons du Trésor américain qui sont titrisés à plus de 850 millions de dollars pour une quinzaine d'acteurs sur le marché américain. Et enfin, on va pouvoir aujourd'hui, ça existe déjà, hein, mais notamment tokeniser des bouteilles de vin, tokeniser des montres, des œuvres d'art, etc., etc. Et ce sera tout pour moi pour cette présentation.
Bah écoutez, un grand merci. Alors déjà à tous d'avoir participé à cette session et surtout un grand merci à toi, Julien.
Merci
pour
à
ton
vous.
intervention qui était vraiment extrêmement claire, passionnante et qui tombe aussi à point nommé où justement, alors certes, il ne faut pas parler, je le sais, que de la valeur de la crypto et en l'occurrence que de la valeur du Bitcoin et de son cours, mais il n'empêche qu'on est en plein en train enfin de, on va dire, de revoir les postures et les positionnements après
Deux ans et demi.
un boudage généralisé des cryptos. Voilà. Un grand merci à tous et puis bah écoutez, à très vite, on se retrouve la prochaine fois pour un café virtuel, cette fois-ci, un café tech. Et on parlera donc décarbonation du numérique, peut-être de décarbonation de la blockchain. Et
Des projets existent en ce sens, en tout cas.
ah bah, je voudrais bien que tu m'en parles. Parfait.
OK.
Merci à tous, très bonne journée, à bientôt.
Merci, au revoir à tous.